Il est 8h.
Médecin généraliste à Biarritz. Je n'ai pas vu un cas positif de Covid depuis un mois et demi. On est en deçà de tous les seuils d'alerte. Ça n'a jamais flambé ici comme ça a pu flamber dans d'autres régions.
Y aurait-il comme un microclimat sanitaire dans les Pyrénées-Atlantiques ? Les contaminations au Covid-19 y sont extrêmement rares. Un mystère que notre correspondant dans le Sud-Ouest, Stéphane Place, a tenté d'élucider. C'est la première grande victoire de Joe Biden. Le Congrès a voté son plan de relance historique à 1900 milliards de dollars. Et puis, cette fois, ce sont les prêtres qui se confessent dans un livre à paraître aujourd'hui. Vous allez découvrir les péchés les plus étonnants que leur confient les paroissiens. 8h15, juste après ce journal, l'invité de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Passe sanitaire, QR code, la technologie sera-t-elle au service de nos libertés ou bien, attention, il y a menace sur nos libertés, qu'en pensez-vous ? Eh bien, on posera la question à notre invité, le patron d'Orange, Stéphane Richard. Rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal de 8h avec Rémi Bossaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. On le sait, depuis son apparition il y a un an, le coronavirus charrie son lot de mystères. On se demande par exemple pourquoi l'épidémie repart parfois dans des pays confinés, comme on l'a vu en Allemagne ou en Grèce. Et puis il y a des mystères heureux, comme celui que vivent en ce moment les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, vous êtes allé sur la côte basque pour observer ce phénomène. Étonnant, le taux d'incidence y demeure spectaculairement bas.
Oui, 42 cas pour 100 000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques. L'épidémie, c'est vrai, ne cesse de reculer depuis plusieurs semaines, notamment sur la côte basque, où exerce le docteur Guillaume Baruc.
Là, objectivement, moi je suis médecin généraliste à Biarritz, je n'ai pas vu un cas positif de Covid depuis un mois et demi. On est en deçà de tous les seuils d'alerte. Moi, j'ai pas pris une semaine de vacances depuis le début de l'épidémie. Ça n'a jamais flambé ici comme ça a pu flamber dans notre région. Et se dire que ce n'est pas parce qu'il y a du monde qui vient sur les plages qu'on augmente le risque. Là, on sort de vacances de février avec un taux de fréquentation record pour la saison. On nous avait dit, vous allez voir après les vacances, le taux d'incidence est au plus bas.
Un constat qui interroge, qui surprend même, ces basques croisés sous le soleil sur la plage de Biarritz.
C'était surprenant, on s'attendait à ce que l'épidémie reprenne pendant les vacances, parce qu'en général, le flux amène toujours ces mouvements de maladie.
Alors par contre, on se faisait la différence, pourquoi dans le nord, près de Dunkerque, pour eux, ça marche pas, alors qu'il y a la mer et qu'il y a le vent, on ne comprend pas.
Alors, l'Agence régionale de santé, elle relativise le constat, bien difficile à expliquer scientifiquement et qui engendre plus de questions que de réponses, dit-elle. Mais pour le docteur Baruc, il n'y a pas de mystère, simplement des paramètres, des spécificités à prendre en compte.
On a une population âgée, certes, mais qui est plutôt en bonne santé, pour des raisons liées en partie à la génétique, au climat, à l'alimentation. En ce moment, pourquoi y a-t-il encore moins de cas que d'habitude ? C'est qu'on a un climat qui est parfaitement favorable, avec des vents marins qui soufflent régulièrement. On a un climat très humide et c'est prouvé qu'un climat suffisamment humide contrarie la propagation du virus. Et de l'autre côté, on sait qu'au Pays Basque, on va soit en bord de mer, soit à la montagne, du surf, du golf, ce que vous voulez, mais les populations passent plus de temps dehors que dedans.
À tel point que beaucoup nous ont dit ne pas comprendre ici le maintien du couvre-feu à 18h, qui les empêche par exemple de faire du sport à l'extérieur en quittant leur travail. Selon l'ARS, il y a seulement 11 personnes contaminées par le Covid actuellement hospitalisées en réanimation dans les Pyrénées-Atlantiques. Situation enviable évidemment en comparaison d'autres départements, en restant toutefois prudent et en espérant que ce ne soit pas un simple répit.
Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, en direct ce matin depuis la côte basque.
Les Pyrénées-Atlantiques épargnées donc par l'épidémie, très loin de ce que connaît aujourd'hui la région Île-de-France.
Les services de réanimation franciliens sont proches de la saturation et on y trouve des malades de plus en plus jeunes, comme a pu le constater Victor Dolande à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Trois semaines passées dans le coma, Ruben est passé tout près de la mort à seulement 32 ans. À ses côtés, Thomas l'aide à se passer progressivement du respirateur artificiel. Pour cet infirmier en réanimation, ses jeunes patients sont plus durs à prendre en charge.
Il a deux enfants, moi j'en ai bientôt deux aussi. Donc c'est vrai qu'on se bat à leur côté. L'équipe est d'autant plus impliquée, même émotionnellement, puisque c'est notre tranche d'âge quasi à tous.
Nathalie, elle, termine les soins sur un patient de 40 ans. Cette aide-soignante est de plus en plus marquée par ces jeunes malades.
Avant, on disait, bon, on est intouchable, on est jeune, on va s'en remettre vite. Ben non, c'est difficile de voir ça, donc ça fait peur, et ça fait peur pour nos familles. Je me dis que ça peut nous arriver.
Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation à la Pitié-Salpêtrière, fait la même observation depuis quelques semaines.
On a des patients jeunes, on a des
des patients très jeunes qui ont quelques comorbidités et quand ils n'en ont pas, ils en ont une qui est claire, c'est le surpoids ou l'obésité. C'est clairement une impression qu'on a tous à surveiller en tous les cas.
L'âge médian des patients reste pour le moment de 64 ans, mais les spécialistes surveillent de très près les chiffres pour voir si cette tendance au rajeunissement se confirme dans les prochaines semaines.
Le reportage de Victor Delande à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des transferts de patients sont prévus dans les prochains jours de l'Île-de-France vers d'autres régions.
Pendant ce temps, aux États-Unis, la situation sanitaire semble s'améliorer. On y compte chaque jour un peu moins de contaminations et un peu moins de morts.
Des voyants qui passent au vert et un plan de relance colossal qui passe au Congrès pour Joe Biden.
This bill represents historic victory. Ce
projet représente une victoire historique pour le peuple américain, les mots du président américain qui va donc pouvoir, avec l'accord du Congrès, injecter 1900 milliards de dollars dans l'économie américaine. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à Washington, ce plan historique donc doit permettre aux États-Unis de surmonter le choc engendré par la crise sanitaire.
Oui, et c'est d'abord un plan d'aide avec des chèques allant jusqu'à 1400 dollars. Ils seront reçus dans les prochains jours par des millions d'Américains qui touchent moins de 80 000 dollars par an. Un large volet est consacré à la lutte contre le virus, 15 milliards pour la vaccination, 10 milliards pour la production de vaccins et 50 milliards pour tester et tracer plus efficacement les contaminations. L'administration Biden le dit, la lutte contre le Covid, c'est la clé pour guérir l'économie. Le plan va également financer la réouverture des écoles ainsi que prolonger et étendre les allocations chômage. Avec des crédits d'impôt, l'aide alimentaire ou encore l'aide aux locataires, les démocrates espèrent diminuer la pauvreté d'un tiers dès cette année.
Mais concrètement, quel est l'objectif de ce plan pour Joe Biden ?
Eh bien, donner le coup de fouet nécessaire pour faire repartir l'économie. Dans le Wall Street Journal, 60 experts ont revu leurs prévisions à la hausse. Près de 6% de croissance en 2021, ce serait la plus forte augmentation du PIB américain depuis 4 décennies. Alors il y a des craintes, hein. Les républicains dénoncent l'envolée du déficit budgétaire et des économistes pointent le risque de l'inflation. Injecter autant d'argent, c'est risquer la surchauffe et une forte augmentation des prix. Il faut se rendre compte de l'ampleur de ce plan, 1900 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Italie.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Pour relancer l'économie, il y a donc la stratégie américaine et puis il y a la stratégie australienne.
Comment relancer le tourisme, secteur extrêmement important pour ce pays ? Eh bien, le gouvernement a trouvé la solution. Il va proposer aux Australiens près d'un million de billets d'avion à moitié prix. L'idée, évidemment, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes des touristes dans leur pays. La relance par le trafic aérien, donc une idée qui peut questionner quand on sait que les émissions des gaz à effet de serre sont déjà plus importantes aujourd'hui qu'avant l'épidémie, comme on vous l'expliquait il y a quelques jours sur notre antenne.
Au Brésil, Lula n'aura pas tardé à passer à l'offensive face à Jair Bolsonaro.
Alors qu'il vient de voir les poursuites judiciaires abandonnées contre lui, l'ancien président s'en est déjà pris frontalement hier soir à l'actuel président.
Quero fazer propaganda pro povo brasileiro.
Je vais faire campagne pour que le peuple brésilien ne suive pas les décisions imbéciles du président de la République ou du ministre de la Santé. Faites-vous vacciner parce que c'est une chose qui peut nous libérer du Covid, a dit Lula, qui parle donc déjà de campagne. À un an de l'élection présidentielle dans un pays débordé aujourd'hui par la pandémie, plus de 2000 morts en 24 heures. C'est un nouveau record.
Retour en France à présent avec cette information Europe 1 ce matin. Le député UDI de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, est en garde à vue depuis cette nuit à Bobigny pour détention d'armes.
Il est entendu par les enquêteurs. La police est intervenue chez lui vers 1h du matin parce qu'il aurait menacé de mettre fin à ses jours. De nombreuses armes ont été retrouvées sur place.
La suite à présent de la sordide affaire d'Argenteuil et la mort d'Alisha, 14 ans, battue et noyée dans la Seine.
Ses deux camarades de classe accusés de l'avoir tué ont été mis en examen cette nuit pour assassinat. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce garçon et cette fille de 15 ans avaient prémédité ce meurtre.
Dans un instant, on va percer le secret de la confession. Un journaliste a recueilli les témoignages de dizaines de prêtres. Il était l'invité de Théo Manval à 6h40.
Le confessionnal, c'est le miroir de la société. Il n'y a pas une grande différence entre les vices de notre société et puis ce qu'on peut entendre à l'intérieur d'un confessionnal.
Vincent Mongaillard, l'homme qui a fait parler les prêtres. Vous allez entendre les confidences les plus étonnantes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, Rémi Bossaron.
C'est un secret parfois écrasant pour ceux qui doivent le respecter. Le secret de la confession percé aujourd'hui dans un livre du journaliste Vincent Mongaillard. Il a interrogé des dizaines de prêtres et Virginie Riva, la palette des péchés entendus au confessionnel est assez savoureuse.
Il y a les petits péchés, comme ce chauffeur de taxi qui confesse prendre des chemins plus longs pour faire payer plus cher. Ce septuagénaire qui raconte 60 ans plus tard avoir bu du vin de messe enfant. Ce scout qui a tué une fourmi. Mais le livre évoque aussi des secrets très lourds. Un homme en détention provisoire confesse son crime à un prêtre. Peu de mois après, il plaide non coupable devant la justice des hommes et est acquitté. Un énorme poids sur les épaules de ce clerc, mais qui assume, comme tous les autres, le secret absolu de la confession. Des prêtres qui encaissent beaucoup de souffrances et doivent parfois improviser des solutions pour empêcher le pire. Vincent Mongaillard raconte comment l'un d'eux décide de récupérer l'arme d'un jeune homme de 20 ans qui vit en roulotte avec sa mère dont il veut se débarrasser. Le prêtre dépose le revolver au commissariat sans donner l'identité de son propriétaire. Plus cocasse, un couple vient se confesser, la femme raconte tromper son mari avec un ami du couple, mais juste après, le mari confesse lui aussi tromper sa femme avec un ami. Le prêtre comprend vite qu'il s'agit de la même personne, mais l'avantage, c'est que tout, devant Dieu, est pardonnable.
Et ce livre s'appelle « Je vous pardonne tous vos péchés », il sort donc aujourd'hui aux éditions de L'Opportun.
Le sport à présent, et le Paris Saint-Germain qui a sans doute, enfin soldé la fameuse remontada.
Et cette fois, les Parisiens ont tenu bon face à Barcelone. Match nul un partout hier soir au Parc des Princes. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et Cyril de la Morinerie, ils se sont trouvés un nouveau héros.
Muchas gracias, señor Navas.
Les supporters peuvent remercier leur gardien. Le Costaricain de 34 ans a multiplié les arrêts réflexes. Tel un gardien de hand, il a même repoussé du pied une tentative du Barcelonais Sergio Busquets. Le chef-d'œuvre, c'est ce pénalty de Lionel Messi détourné en toute fin de première période. Navas a sauvé le PSG, estiment ses deux fans.
Ce soir, c'est lui. Le monument, c'est lui la star, c'est lui l'homme du match.
Même à mes amis, je leur ai dit, là, je sens que là, il va l'arrêter. Et effectivement, il a arrêté.
En recrutant Keylor Navas en 2019, en provenance du Real Madrid, pour moins de 15 millions d'euros, le PSG a réalisé une superbe affaire. Aussi discret qu'expérimenté, Navas, qui a remporté 3 Ligues des Champions, a fait passer un cap au club parisien, confirme l'ancien joueur Laurent Fournier.
Sans bon gardien, vous ne gagnez pas de compétition. Et Navas est en train de mettre le PSG sur le bon rail, avec ses arrêts. Quand vous avez 17 tirs de Barcelone et que vous faites 6 arrêts, c'est que le gardien est présent et qu'il rassure.
Très croyant, Keylor Navas qui s'agenouille avant chaque match, se signe et regarde vers le ciel. Eh bien, l'ange gardien du PSG.
Cyril de la Morinerie, dans l'autre match de la soirée, c'est Liverpool qui s'est qualifié pour les quarts de finale face à Leipzig.
Merci beaucoup. Muchas gracias, Rémi Bossaron. C'était le journal de 8h. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité politique de la matinale, l'invité de Sonia Mabrouk, c'est Stéphane Richard, le PDG d'Orange. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le PDG d'Orange, Stéphane Richard.
Bienvenue à vous et bonjour Stéphane Richard.
Bonjour Sonia Mabrouk.
On va parler dans quelques instants, passe sanitaire, QR code, technologie et Covid, opportunité ou menace, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, je vous propose de démarrer cet entretien par un tour de France sur le déploiement de la 5G. Pour la capitale, pour Paris, on dit c'est parti, ça y est.
Oui, c'est parti, le Conseil de Paris a voté une charte à laquelle tous les opérateurs se sont engagés concernant les modalités de ce déploiement. Et donc, je peux vous dire que la 5G sera à Paris avant la fin, commencera en tout cas, avant la fin du mois de mars. Donc, c'est pour les prochains jours.
Avant fin mars. Alors, quels engagements, vous et les autres opérateurs, avez-vous pris en matière de sécurité, d'éco-responsabilité ?
On a pris des engagements autour de la puissance d'émission des antennes. Donc ça, c'est un peu pour le volet sanitaire. On a pris un certain nombre d'engagements sur le volet alors, éco-responsabilité, en particulier autour du recyclage des terminaux et les efforts qu'on doit déployer dans ce domaine. En fait, il y avait déjà une charte qui existait depuis pas mal d'années entre les opérateurs.
Mais il fallait vaincre certaines réticences, c'est ça, au Conseil de Paris, les Verts notamment.
Ouais. Il fallait l'adapter, donc on l'a adapté, il y a une négociation qui s'est mise en place. Je pense que c'est une bonne démarche d'ailleurs au fond, à travers un document qui n'a pas une valeur juridique, hein, mais qui est vraiment un engagement collectif, finalement, de répondre peut-être à certaines inquiétudes qui ont pu s'exprimer. C'est une bonne démarche. Et je me réjouis personnellement que Paris puisse avoir accès à la 5G maintenant très, très vite.
Alors Paris, effectivement, qui rejoint ainsi Stéphane Richard, le club des villes comme Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Nice. Nice qui fait partie d'une des premières métropoles à avoir adopté cette nouvelle technologie. Quels sont les premiers retours dont vous disposez désormais ?
Alors les premiers retours sur les utilisateurs de la 5G sont bons, c'est-à-dire la satisfaction qu'ils expriment sur leur expérience 5G est très forte. Elle est en moyenne, si vous voulez, deux fois plus élevée que sur la 4G. Bon, donc, il y a un vrai gain de confort, parce que le débit est beaucoup plus important.
C'est ce qu'on vous dit en premier ? C'est la qualité du débit ?
Oui,
si vous deviez ce matin dire à nos auditeurs quel gain, qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien ?
Bah, c'est la vitesse, c'est le débit, c'est la qualité aussi de récupération, disons, des données. Par exemple, quand il s'agit d'images, tous les formats haute définition, etc. C'est le fait que, d'une manière générale, tous les contenus qui sont lourds en bande passante passent instantanément et très facilement sur la 5G. Alors, c'est vrai que pour le grand public, pour l'instant, je dirais ça reste significatif quand même, et sensible, hein, puisque les gens le disent, mais c'est pas non plus disruptif. Mais on va avoir, là, dans les mois et les années qui viennent, on va avoir de nouveaux usages, de nouveaux terminaux aussi, qui vont amener vraiment des vraies révolutions avec la 5G.
Mais pourquoi ce n'est pas encore, Stéphane Richard, disruptif ? Par exemple, certaines villes françaises restent encore circonspectes quant à l'utilité de cette technologie. Il y a Rennes, il y a Lille, il y a Nantes. Est-ce que vous comprenez les résistances encore ? Et comment vous y répondez ?
Les résistances, elles sont plutôt de nature sanitaire, parce qu'on nous dit qu'il y a un problème d'exposition aux ondes. Mm-hmm. À ça, la seule réponse, c'est la science, c'est les études qui ont été faites. Il y a plus de 20 000 études qui ont été faites dans le monde. Il y a un nouveau travail qui est attendu de l'ANSES, d'ailleurs, qui doit donner ses résultats
dans
quelques
jours. L'Agence nationale de sécurité sanitaire.
Donc je crois qu'il faut objectiver ce débat sur l'exposition aux ondes. À ce jour, aucun risque n'a jamais été avéré nulle part dans le monde. On peut apporter ces données. Je crois que là, on est plutôt dans le registre fake news versus science.
Bon. Ah, vous pensez qu'il y a des fake news et du fantasme autour de ces peurs de
Il y a beaucoup de fake news autour de la 5G. On nous a expliqué que la 5G tuait des
abeilles.
On nous a expliqué que la 5G était même responsable du Covid, d'ailleurs. Enfin, on a tout entendu sur le sujet. Donc oui, bien sûr qu'il y a tout ça. Je pense que la seule issue là, c'est vraiment d'objectiver le débat. Après, il y a toute une série d'autres questions autour, finalement, de l'apport du progrès dans la société. Est-ce que la technologie est positive ? Les données, le numérique, puisqu'on ne dit plus le digital. Est-ce que tout ça est un progrès pour la société ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas inquiétant parce que nos libertés...
Pour le patron d'Orange, on connaît la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des inquiétudes légitimes ? D'autant qu'en France, en ce moment, il peut y avoir une inquiétude, on a parlé du vaccin, alors fort heureusement cette propension des Français inquiets par rapport au vaccin diminue, mais est-ce que vous comprenez ces résistances aujourd'hui par rapport au progrès et à l'innovation ?
Oui, je les comprends parce qu'il y a des aspects inquiétants. Quand on parle d'intelligence artificielle, on sait bien que ça peut susciter quand même des inquiétudes et des peurs. Le fait qu'on soit totalement envahi par les données aujourd'hui et qu'il n'y ait plus une petite parcelle de nos vies... qui ne soit pas dans un format numérique à un moment ou à un autre. Tout ça est inquiétant, oui, bien sûr. Quand on compare la vie qu'on mène aujourd'hui à celle qu'on menait il y a encore 25 ans ou 30 ans, où il n'y avait pas tous ces systèmes, je pense que cette frontière, ou plutôt la définition de la liberté individuelle, elle a totalement changé. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, les dérives qu'on voit sur le monde numérique, sur les réseaux sociaux en particulier, malheureusement tous les jours.
Bah, vous allez
on
nous
a
dire.
Des exemples ouais. tragiques de
Comment
ça.
Comment contenir ces dérives ? Parce qu'on va parler dans quelques instants de technologie et Covid, avec le pass sanitaire, QR code peut-être à venir. Mais tout d'abord, puisque vous parlez des données, Stéphane Richard, il y a eu l'incendie qui vient de détruire quand même l'un des data centers de l'hébergeur OVH les plus importants, qui héberge une partie du web français. Ça provoque d'ailleurs des inquiétudes incroyables. C'est une angoisse pour l'opérateur que vous êtes ?
Oui, bien sûr, ça montre que derrière tout ce dont on parle, il y a aussi quand même des installations, des infrastructures physiques qui peuvent avoir un problème. Elles peuvent brûler, elles peuvent être attaquées d'ailleurs aussi. Hein. Et donc, au fond, tout ça, ça renvoie à la question du risque aussi, hein, des sociétés contemporaines numériques, numérisées.
Il n'y a pas de risque zéro, d'infaillibilité.
Il n'y a pas de risque zéro et la solution, elle est probablement à la fois dans la répartition des risques. Et donc, vous savez, c'est la bonne vieille expression, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est important, je pense, de ne pas dépendre entièrement d'un seul opérateur ou d'un seul site. Et par ailleurs, il y a tout ce qui touche à la cybersécurité. et toutes les armes qu'on peut déployer pour lutter contre ce fléau mondial qu'est les cyberattaques, le cyberpiratage, qui, à mon sens, va être le sujet du monde dans la décennie qui vient.
Évidemment, et le sujet de demain pour nous face à la crise du Covid, puisqu'on parle éventuellement de passe sanitaire, de QR code. D'ailleurs, vous dites que la bataille va passer par la technologie. Qu'est-ce qui garantit justement qu'il n'y aura pas de risque de partage, de diffusion malveillante de nos données ? Certains disent que ce QR code ou passe sanitaire, c'est une opportunité, d'autres disent que c'est une grave menace sur nos libertés.
Alors, c'est une opportunité parce que ça va donner une facilité de vie dans un monde où il y a l'épidémie et beaucoup d'autres risques d'ailleurs, qui est incomparable. C'est évident que si on doit tous se balader avec des carnets de vaccination, des documents, des tests, tout un historique, vous imaginez l'enfer que ça va être. Donc oui, bien sûr, c'est une simplicité, une simplification de nos vies qui est absolument majeure. Les garanties et la sécurité, on peut les apporter par l'architecture de ces systèmes et par les mesures qu'on prend, parce que on peut effectivement protéger, et on peut avoir des niveaux extrêmement élevés de protection des systèmes, de protection des circulations de données. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs déjà dans l'application Tous Anti-Covid. Vous remarquerez que malgré tous les débats qu'il y a eu, il y a près de 14 millions de Français qui l'ont téléchargé et il n'y a eu aucun souci, il y a eu zéro problème sur l'application
Tous Anti-Covid. Donc cette crainte, Stéphane Richard, d'un contrôle numérique intensif de nos données, de nos déplacements, pour vous c'est un fantasme, il faut arrêter sur ce sujet ?
Je ne dirais pas que c'est un fantasme, je la comprends, il faut l'entendre, il faut y apporter des réponses. Parce que je trouverais dommage que par rapport à tous les progrès que les technologies, et notamment les technologies du numérique, peuvent apporter aux sociétés, qui sont incomparables pour l'avenir, ce serait dommage de tout bloquer parce qu'il y a ces problèmes-là qu'il ne faut pas nier pour autant. Donc moi, je pense qu'il faut, objectiver ces problèmes.
Là, c'est un message que vous envoyez aux responsables politiques. C'est aux politiques aujourd'hui déjà d'anticiper ce débat de demain ?
Pas uniquement. Oui, bien sûr, si les politiques doivent avoir une expression et peut-être prendre des mesures là-dessus. Mais pour moi, c'est un sujet d'un peu de protection civile, si vous voulez, de sécurité civile. C'est-à-dire, il faut que tout le monde, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et même tous les individus, toutes les familles, réalisent qu'il y a, parce que le monde est devenu numérique, des risques nouveaux qui sont apparus. Et donc, vous voyez, toutes les données qu'on met sur les réseaux sociaux, quand on est une famille, qu'on voit les enfants, regardez les drames qu'on voit aujourd'hui avec des adolescents ou même des enfants.
Et de harcèlement mortel.
C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc oui, il y a une responsabilité des individus, des familles, des entreprises de prendre la mesure de ces risques et de commencer à, je dirais, mettre en œuvre concrètement les choses. Vous savez, il y a beaucoup de travail à faire parce que, en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément d'acteurs, notamment dans l'économie, qui sont très très loin de ces sujets.
Oui, mais on espère que vous anticipez, en tout cas qu'il y a des discussions entre gouvernements, opérateurs sur ces sujets-là, s'il y a sortie de crise sur ces thèmes.
Oui, absolument. Ouais. C'est vraiment une préoccupation qui est très forte au sein du gouvernement, mais aussi dans les agences nationales, je pense à l'ANSSI notamment. Donc oui, c'est un sujet
crainte,
très, très important.
Stéphane Richard, elle est aussi évidemment économique dans cette crise, et peut-être même pour les salariés, les employés d'Orange, puisqu'un plan serait prévu d'ici à 2023, quand même un plan où on parle de 7500 postes menacés, des économies à hauteur d'un milliard. Est-ce que c'est le cas, vous confirmez, avec ces suppressions peut-être à venir ?
Non, je ne confirme pas du tout l'existence d'un plan, il n'y a pas de plan. Chez nous, en fait, on a, depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins 5 ans, une politique qui consiste à ne pas remplacer tous les départs à la retraite. Bon, et donc, si vous voulez, sur les 5 dernières années, on a en moyenne entre 3 et 4 000 postes qui, de fait, n'ont pas été remplacés en France, simplement parce qu'on n'a pas remplacé des gens qui partaient à la retraite, et on a d'ailleurs accompagné les fins de carrière en proposant un dispositif qui a été plébiscité
mais donc,
par nos salariés.
Non-remplacement.
C'est ce qu'on va continuer
à faire.
Et pas
suppression de postes.
C'est ce qu'on va continuer à faire sur les années qui viennent. Nous allons accompagner les fins de carrière de façon à prolonger, je dirais, cette adaptation de nos effectifs. Mais il n'y a pas de plan de...
Et pas de coupe massive, comme on a pu le lire, non ?
Il n'y a aucun plan visant à la baisse des effectifs. Il y a simplement... le renouvellement en fait d'un accord, et d'ailleurs tout ça va être soumis à la négociation collective, il y a un renouvellement d'un accord qu'on appelle intergénérationnel et qui permet d'aménager les fins de carrière et clairement on ne remplacera pas tous les départs à la retraite dans les 5 ans qui viennent.
Pour conclure, Stéphane Richard, comment le patron que vous êtes imagine l'état de la France à la sortie de crise ? Quand il y aura cette sortie de crise ?
Je crois qu'il y a une immense lassitude des Français face à cette interminable épidémie quand même. Et du coup, il y a une très grande impatience, il y a une très grande frustration aussi. Donc moi, je pense que les Français vont revenir, dès que ce sera possible, massivement, à ce qui faisait quand même un peu nos plaisirs d'antan. Les restaurants, les voyages, les spectacles, la culture, tout ça, ça va redémarrer, je pense, très très fort. Et quant à l'économie elle-même, moi je regarde les résultats des grands groupes et des entreprises d'ailleurs en général en 2020, toute l'appareil industriel et ce qui fait quand même l'essence de l'économie, à part peut-être l'aérien qui est un cas particulier, mais a été relativement bien défendu, bien préservé. Donc moi je suis résolument optimiste, je pense que la France va redémarrer très fort dès que, je dirais, la campagne de vaccination permettra de le faire.
Vous avez tout dit, donc optimisme, mais réaliste quand même. Hein. Merci Stéphane Richard d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs ce matin.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Restez bien sur Europe 1, la suite c'est l'info avec Carole Ferry, la météo de Laurent Cabrol, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Carole Ferry.
C'est l'information qu'Europe 1 vous révélait dès le journal de 7h30. Le député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, a été placé en garde à vue cette nuit à Bobigny. Alors que s'est-il passé, Guillaume Bié ?
D'après nos informations, ce sont les proches du député qui ont appelé la police cette nuit vers 1h du matin en expliquant que Jean-Christophe Lagarde était armé chez lui et qu'il aurait menacé de se suicider. En approchant de son pavillon, les policiers ont entendu au moins une détonation. Mais une fois sur place, personne n'était touché. L'élu a prétendu que tout allait bien. Or, ce n'est pas du tout ce que laissaient entendre ses proches. Et surtout, dans la maison, les policiers ont constaté la présence de nombreuses armes à feu, armes longues, armes de poing qui n'étaient pas déclarées, du moins cela mérite des vérifications approfondies. Voilà pourquoi le parquet de Bobigny a pris cette nuit la décision de le placer en garde à vue. Jean-Christophe Lagarde a donc été conduit dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis pour y être interrogé.
Merci pour ces précisions, Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe. Doc Gineco a également été placé en garde à vue hier. Le chanteur est soupçonné de violence volontaire sur son épouse. Cette dernière n'a toutefois pas souhaité porter plainte. Les deux adolescents, un garçon et sa petite amie de 15 ans, responsables de la mort d'Alisha Argenteuil, ont été mis en examen hier soir pour assassinat. Selon le procureur de Pontoise, il n'y a aucun doute sur la préméditation. Ils ont été placés en détention et en cours jusqu'à 20 ans de prison. C'est aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments doit rendre sa décision sur la mise sur le marché du nouveau vaccin contre le Covid, Johnson & Johnson. Mais des retards de livraison sont d'ores et déjà annoncés. Ils ne devraient pas arriver en France avant le mois d'avril. Et quand il y aura suffisamment de doses pour vacciner tout le monde, faudra-t-il vacciner nos enfants ? Pour le moment, Anne Le Gall, la question divise les scientifiques.
Exactement, il y a les médecins qui plaident pour cette vaccination, car même si les enfants développent des formes moins graves de Covid, ils peuvent quand même être vecteurs du virus, alors que pour d'autres, même sans vaccination, les enfants développeront de toute façon une immunité qui limitera la circulation du virus. Le débat est donc loin d'être tranché, mais il est de toute façon prématuré en France, car à ce stade, aucun vaccin pour enfants n'est encore homologué. Les essais cliniques sont en train de démarrer, rappelle le professeur Antoine Flao, professeur de santé publique à l'Institut de santé globale de Genève.
À la fin de l'été, on devrait avoir des résultats. Il y a toutes les raisons de penser que ces résultats seront à la hauteur des promesses que le vaccin a tenues chez l'adulte. Mais il faut également voir, bien sûr, toute la sécurité de ces vaccins chez l'enfant.
Le vaccin pour enfants sera donc un vaccin pour adultes, mais injecté à des doses moins importantes, comme cela se fait pour d'autres vaccins. Et quand les données de sécurité et d'efficacité seront validées, l'Agence européenne du médicament n'aura plus qu'à délivrer une extension d'autorisation de mise sur le marché.
Enfin, Emmanuel Macron rendra hommage ce matin aux victimes du terrorisme lors d'une cérémonie aux Invalides. Il doit rencontrer ensuite l'imprimeur qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en 2015 à Damary-en-Goële à l'occasion de la deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme.
Merci beaucoup Carole Ferry. C'était le journal de 8h30 sur Europe 1. À 8h34, Laurent Cabrol est avec nous. Voilà météo.
Alors voici la situation. Nous avons une zone de pluie qui traverse la France à l'heure où nous parlons. Cette zone de pluie mesure 150 km de large, grosso modo. Et elle a passé les côtes de la Manche dans la nuit. Elle donne maintenant des averses dans ce secteur des côtes de la Manche avec énormément de vent. 90 à 120 km/h. Et puis, cette perturbation poursuit son petit bonhomme de chemin. Elle quitte maintenant lentement la région nantaise, les Pays de la Loire. Elle n'est pas très loin d'Orléans. Elle va s'éloigner de Paris dans l'heure qui vient. Et de Reims aussi, elle approche la Lorraine. Sur la ville de Paris, on peut espérer quand même des éclaircies là, dans le temps qui vient. Oh, pas grosses éclaircies, mais surtout un climat plus clément, hein, plus tranquille par rapport à ce que nous avons vécu cette nuit. Donc dans l'ensemble, ce sera une matinée plutôt tranquille sur Paris et paisible. En ce qui concerne les autres régions, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Massif Central, le Mâconnais, l'Alsace et la région lyonnaise, les pluies seront un peu plus fréquentes tout au long de la journée. Elles auront tendance à stagner, alors qu'il fera beau sur le Midi-Pyrénées, le bassin méditerranéen, le Massif Alpin et la Corse. Les températures restent donc pratiquement les mêmes que celles que je donnais tout à l'heure, à savoir les températures maximales de l'après-midi, entre 12 et 17 degrés, et nous avons ce matin entre 8 et 12 degrés. Demain, ce sera encore agité. Samedi, ce sera presque le même temps qu'aujourd'hui. Dimanche, ça ira pas très bien. En fait, le changement de temps, si changement il y a, se situera mercredi ou jeudi prochain, où là, nous retrouverons peut-être le froid.
Retour du froid, retour des doudounes. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Prenons soin les uns des autres. Dans quelques toutes petites secondes, on retrouve le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, je vais vous parler d'un organe qui n'a pas l'air très sexy comme ça, mais qui a des pouvoirs extraordinaires et qu'il faut absolument chouchouter, votre rein.
On parlera de saumon dans notre planète avec Fanny Agostini avant la revue de presse de Nicolas Canteloup. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est la journée internationale du rein et vous allez nous parler de cet organe qu'on connaît tous, mais dont il faut absolument prendre soin.
Exactement. Alors pour vous rappeler quelques petites choses toutes simples, les reins mesurent une dizaine de centimètres, ils pèsent moins de 200 grammes et vont se situer sous vos côtes, entre la 11e et la 2e côte, dans ce qu'on appelle la fosse lombaire. Alors on le sait tous, les reins servent à filtrer les urines, mais avant tout, les reins servent à nettoyer le sang de ses impuretés grâce à un réseau extraordinaire de vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, représente, écoutez bien, plus de 100 000 km d'artères et de veines. Chaque jour, les reins vont laver 300 fois, la totalité de votre sang, ce qui représente 300 fois, ça fait 1800 litres par jour de sang qui vont être épurés. Mais c'est pas tout, les reins permettent aussi de réguler les minéraux dans votre organisme, comme le sodium, le potassium, le calcium, et puis ils vont aussi activer la vitamine D dont on parle beaucoup, et vont aussi sécréter une hormone qui est bien connue de certains cyclistes adeptes du dopage, l'EPO. Cette hormone, elle permet de synthétiser les globules rouges, et tout ça, votre rein le fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre, ou presque. C'est pour ça qu'on dit avoir les reins solides.
Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si nos reins fonctionnent mal? On appelle ça l'insuffisance rénale, non?
Exactement. L'insuffisance rénale, c'est 6 millions de personnes en France. Le problème, c'est que même avec un rein malade, vous n'avez quasiment aucun symptôme. Vous ne pouvez pas savoir que votre rein souffre si vous ne faites pas une prise de sang, car le diagnostic est simple avec la prise de sang. On va doser ce qu'on appelle la créatinine. Plus cette créatinine est élevée, moins vos reins fonctionnent correctement. On peut aussi faire, c'est ce qu'on fait de temps en temps à la médecine du travail, une petite bandelette urinaire. On va rechercher des protéines, car quand un rein marche moins bien, eh bien il filtre moins bien et va laisser ces protéines qu'on va retrouver dans les urines. En France, les deux causes principales d'insuffisance rénale sont 1. l'hypertension artérielle et 2. le diabète. Ça paraît tout bête, mais en fait, ces deux maladies vont abîmer les petits vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers les cellules rénales qui vont être détruites à leur tour, aboutissant à l'insuffisance rénale. Alors, c'est simple, pour préserver vos reins, il faut donc avoir une bonne tension artérielle et puis un taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie normale. Et puis, quelques conseils tout simples, buvez entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, c'est largement suffisant. Essayez d'arrêter de fumer, pratiquez une activité physique régulière, essayez d'avoir une alimentation équilibrée. Car pour prendre soin de ses reins, eh bien en fait, ça nous permet de prendre soin de sa santé tout simplement.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. À 15h, sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. C'est presque la suite. Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes?
Et oui, un programme spécialement pour vous Mathieu. On reçoit la nutritionniste Laurence Plumet. Vous allez voir, elle est géniale, vous allez l'adorer.
J'adore les légumes, avec plein de beurre dessus. C'est sûr. Vous lui demanderez pour moi Jimmy. Merci beaucoup. J'aime aussi beaucoup, figurez-vous, le saumon.
Le saumon.
Puisqu'on est dans mon frigo ce matin. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète. Vous nous parlez aujourd'hui d'une décision très importante qui vient d'être prise pour sauver les derniers saumons sauvages en France.
Oui, c'est un peu l'opération de la dernière chance en ce moment. Il n'en reste que 350 d'après le plus récent comptage. Ce sont les derniers saumons sauvages français. Et ce qui va être tenté
pour les sauver. C'est le résultat de 10 ans de concertation entre plusieurs associations, les autorités locales et EDF. Cette solution, c'est d'abaisser un obstacle énorme qui se dresse sur la route migratoire des saumons, le barrage de Poutès qui se situe en Haute-Loire. Il va prochainement être abaissé de 10 mètres pour permettre à ce poisson emblématique de le franchir. Je ne sais pas si vous vous imaginez, Mathieu, à quel point ces animaux sont des warriors, des bêtes de compétition. Ils vont parcourir des milliers de kilomètres pour se nourrir au large dans l'Atlantique, près du Groenland. Puis, ils rebroussent chemin pour remonter l'Allier et se reproduire in fine en Auvergne. Seulement, sur leur route se dressent ces barrages qui ont rendu la remontée du fleuve déjà éprouvante, quasi impossible, malgré les aménagements qu'on a tenté de leur installer, comme par exemple les fameux ascenseurs à saumon.
Réduire la taille des barrages, c'est en train de devenir la règle un peu partout dans le monde ?
Alors oui, parce qu'on se rend compte de nos erreurs plus d'un demi-siècle après leur construction. Aux États-Unis, par exemple, une cinquantaine de barrages sont démantelés chaque année. Sur les fleuves et affluents européens, on dénombre 1,2 million d'obstacles. Et aujourd'hui, que ce soit pour des raisons écologiques ou par contraintes techniques, eh bien ces ouvrages qui nous fournissent de l'électricité sont de plus en plus questionnés et repensés.
Fanny Agostini, si je vous suis bien, en abaissant la hauteur de ces barrages, on perd une partie de l'énergie qu'ils nous fournissent ?
Alors pas vraiment. Ça ne veut pas dire que l'on sacrifie de l'énergie plus propre pour la biodiversité. Pour ce qui est du barrage de Poutès, si on reprend cet exemple, sur l'Allier, 85% de la production d'électricité sera maintenue après les travaux. Il s'agit en fait de trouver un juste milieu, car au-delà de la nostalgie que nous pourrions avoir suite à la disparition totale d'une espèce, eh bien c'est qu'il y a là derrière des bénéfices quantifiables à garder le saumon en vie. Déjà pour des raisons d'équilibre des écosystèmes aquatiques, évidemment, car on sait bien que quand on dégomme une espèce, eh bien, c'est l'effet domino derrière avec des conséquences sur l'ensemble des autres animaux. Et puis, imaginons un peu, rétablir la population de ce saumon sauvage pourrait revigorer la pêche et le tourisme associé. Un rêve encore un peu lointain, car pour qu'il puisse être sauvé, ce saumon, il faudrait que les effectifs dépassent les 1500 individus. Alors espérons que l'abaissement de ce barrage aura des répercussions positives et rapides sur ce poisson au bord de l'extinction. D'ailleurs, en ce moment, je vous le rappelle, c'est la période de l'éclosion des œufs. Une pensée pour ces saumons qui vont devoir bientôt entamer une longue route sur des milliers de kilomètres jusqu'au port de Saint-Nazaire pour ensuite rejoindre l'océan.
Oui, et puis aller se nourrir au Groenland, on l'a compris, pour revenir ensuite chez Fanny Agostini en Haute-Loire. C'est fascinant. Fanny Agostini, merci beaucoup. Et à demain, 8h43. Dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse. Nicolas Canteloup arrive. Julie s'est déjà installée.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour. Et
oui, ma chère Julie, évidemment, l'actualité, évidemment. Bienvenue, chers auditeurs, si vous rejoignez sur Europe 1. L'actualité, évidemment, c'est le football. Et le PSG, c'est formidable, qui se qualifie contre Barcelone en Ligue des Champions. Une victoire qu'on doit, il faut le dire, aux Français. Au-delà du gardien Navas, qui a été formidable, on retiendra surtout la prestation des deux attaquants français, l'équipe de France, formidable hier, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui ont permis à Paris de l'emporter.
Attendez Mathieu, Dembélé il jouait pour Barcelone.
Bah oui, heureusement qu'il jouait pour Barcelone d'ailleurs, parce que s'il avait joué à Paris, on passait pas, tout il a formidablement joué, mais toutes les occasions sont passées à côté. Et puis, l'autre info, vous le savez, c'est la journée mondiale de l'audition.
Ah oui.
Excusez-moi de m'immisquer, vous voyez venir, hein. Non, mais ça suffit, les auditions là, j'ai entendu vos détails. Non, c'est tous les jours. Non, franchement, moi, c'est tous les jours pour moi, les journées d'audition.
Bah oui.
Des auditions sans arrêt. Moi, j'ai pas de problème d'audition. Hein, ça, au contraire. D'ailleurs, même d'une manière générale, je trouve qu'on m'écoute un petit peu trop. Merci, monsieur Sarkozy. Ça nous fait plaisir de voir que vous écoutez l'antenne Europe 1 des 7h, 6h, je sais quoi. Et puis l'autre info, c'est la reine d'Angleterre, bien sûr, qui joue l'apaisement. Vous l'avez entendu, c'est surprenant, mais c'est une main tendue. Avec Meghan et Harry, elle a fait savoir que le couple sera toujours, je cite, guillemets, très aimé de la famille. Le couple sera toujours très aimé de la famille.
Oh non. Oh Baliverne. Oh Baliverne. Oh mais ça pile ou face. Oh non mais tu parles. Non, vu ce qu'ils ont mis à la famille royale pendant l'interview, les deux Meghan et Harry, on s'est pas dit que le prochain déjeuner du dimanche se passe formidablement bien, non. Enfin, soyons... Mais si, Julien, soyons sérieux, allons. Vous serez toujours très aimé de la famille. Non mais... Ça, c'est quand même une phrase de mafieux sicilien. Mais oui, le parrain, tu sais, quand il dit qu'il t'aime bien, tu sais que t'as une chance sur deux de finir dans un sac à sapin. Non, moi, je me méfierais quand même.
Merci Stéphane, et à demain, Mathieu.
Moi, j'aime bien quand vous faites « Merci Stéphane ». Moi, c'est formidable. Oh, c'est mignon comme tout.
Il est taquin.
Bah, oui. Les rixes entre bandes se multiplient. Le phénomène des bandes de jeunes inquiète de plus en plus et fait de plus en plus de victimes. Dans l'Essonne, à Champigny, sur Marne, à Paris, dans le 16e. Jean Castex, bonjour.
Oui. Bonjour, madame Julie, bonjour, monsieur Béliard, et bonjour aux jeunes qui nous écoutent et à qui je dis non à la violence. Jeunes, c'est un appel solennel, je vous le dis, soyez gentils. Mais oui, être gentil, c'est grave le kiff de bâtard. Écoutez, mon conseiller en communication qui me l'a marqué sur ce post-it, dans mon cage d'escalier, c'est comme cela que vous parlez. La violence, j'ai envie de dire, il faut lui niquer sa grand-mère la pute. Alors, bien sûr, je m'excuse auprès de mamie qui nous écoute peut-être. Mais mamie, comprenez qu'il est nécessaire de s'adresser aux jeunes avec leur langage à eux. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que je vais aller sur Twitch dès dimanche m'exprimer.
Ouais, c'est vrai qu'après François Hollande, c'est vous qui allez sur Twitch, hein, c'est ça. Dans l'émission de Stéphane, non, de Samuel Etienne.
Samuel Etienne, tout à fait, vivi. Et ça, donc je dis salut la commu, hein, salut les followers. Et je me suis préparé activement à faire le buzz. Je me suis entraîné au jeu vidéo d'ailleurs préféré des Jones, Tetris.
Tetris, les années 80.
Non, je me suis peut-être trompé. Je confonds avec... Oui. Où j'ai mis ma fiche sur les jeunes. Attendez. Oui, voilà. Non, leur jeu préféré, c'est Fortnite. Oh là, vous parlez l'anglais, vous maîtrisez l'accent. Oui, moi aussi je la sens. Alors j'ai aussi appris les méthodes des YouTubeuses pour se redessiner le sourcil. Je viendrai avec un petit chat, ça c'est très important, me l'a conseillé. À Matignon, il faut avoir le petit chat, c'est très important. Et puis j'irai moi aussi, bien sûr, chez McDrive et Morito. McKay n'est pas le mytho.
McFly et Carlito.
Voilà. McFly et Carlito. Voilà.
Bon, ben tout ça c'est bien joli, mais revenons au problème. Qu'est-ce que vous comptez faire de concret pour endiguer ce problème de la violence chez les jeunes ?
Rien de tout. Car heureusement, Madame Julie vous constatait, nous sommes en plein pic épidémique. Donc, si les jeunes sont coincés chez eux, à leur domicile, le problème pourrait se résoudre tout seul. Si vous voulez donc aider à résoudre la violence, faites monter l'épidémie, je dis aux jeunes. Ne vous lavez plus les mains. Faites-vous des bisous entre vous. Fermez les fenêtres. Sucez des poignées de porte. Aidez-nous à lutter contre ce fléau qu'est la violence à l'extérieur de votre domicile.
Merci, monsieur le Premier ministre. Incroyable. Bon, allez, sur le front de l'épidémie, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a donné l'ordre ferme aux hôpitaux et aux cliniques franciliens de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales. Le ministre de la Santé est avec nous maintenant. Bonjour Olivier Véran.
Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Béliard. Oui, nous avons demandé aux hôpitaux d'arrêter d'opérer des gens lorsque ce n'est pas nécessaire. On peut attendre pour, par exemple, une rotule en céramique. Par exemple, vous pouvez très bien vous passer de marcher avec une rotule en céramique. Puisque vous n'aurez pas encore la rotule en céramique. Donc vous n'avez pas la rotule en céramique. Vous pouvez vous passer de marché pendant 15 jours, voire 3 semaines. De toute façon, vous n'avez pas le droit de sortir. Donc il n'y a pas beaucoup de manque.
Non, mais attendez, mais les hôpitaux franciliens sont saturés à ce point ?
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Voilà pourquoi nous demandons aussi à 40% des Français de ne plus tomber malade. Alors je lance cet appel. Voici notre conseil santé. Mettez votre écharpe quand vous sortez et mangez des clémentines au lieu de vous enfiler du Nutella avec une cuillère à soupe.
En tout cas, déprogrammer 40% des opérations, bah c'est fou d'en arriver là quand même. Pourquoi on n'a pas plus de lits en réanimation ? Ça fait un an que ça dure cette polémique.
Alors Madame Julie, je tiens à vous arrêter. Les lits, nous les avons. Il faut juste qu'il n'y ait personne dedans. C'est pour ça que nous demandons aux médecins de ne pas les remplir avec n'importe quoi. On ne veut plus y mettre du malade bas de gamme, on les réserve aux malades de premier choix. C'est simplement de la gestion élémentaire de stock.
Bon, écoutez. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie.
Véran, allez. L'opposition parisienne se plaint de l'absentéisme d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Madame Hidalgo, ils disent que vous êtes tournée vers 2022 et que la mairie ne vous intéresse
plus. Non, mais alors, mais c'est faux. C'est faux, je m'inscris en faux, Mme Julie. Parisien, parisienne, je serai toujours là auprès de vous pour vous enquiquiner. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme cela. Même si c'est vrai, oui, j'aime les Français. Vous savez, les Français, ce sont des gens que je ne connaissais pas bien il y a encore 3 semaines. Mais je les découvre grâce à mes petites... voilà. Grâce à mes... Comment on dit les, oui, mes excursions. Voilà. Mais ils sont formidables, les Français. Ils ressemblent un peu à des Parisiens, si bien sûr on fait abstraction de leurs habits moches. Et oula, savez-vous qu'ils parlent quasiment, les Français, la même langue que les Parisiens. Bref, ils méritent d'être connus. C'est pour ça que je vais à leur rencontre grâce à des excursions.
Bon, écoutez, on a compris. Bon, parlons de Paris quand même. Hein. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a déclaré que le confinement en Ile-de-France n'était pas d'actualité.
Alors, d'ailleurs, à ce propos, en parlant de Jérôme Salomon, vous ne trouvez pas ironique que l'homme qui a privé les Français de sport d'hiver a un nom de ski ?
Oh oui, bah alors là, franchement...
Mais écoutez, c'est une touche d'humour. Car en allant à la rencontre des Français, je me suis rendu compte que les Français aiment l'humour. Certains aiment rire même parfois à 9h moins le quart le matin. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais depuis 3 semaines, j'aime les Français.
Oui, oui, on a compris. Merci beaucoup, depuis Anne Hidalgo. Allez, on va reparler de Samuel Etienne, qui fait l'unanimité sur Twitch. Hein, François Hollande, puis Jean Castex, passe chez lui la même semaine. Samuel Etienne, votre matinale quotidienne cartonne et vos interviews sont un succès. Comment vous l'expliquez, ça ?
Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tous et bon réveil si vous nous écoutez. Il est 8h47, on va se faire, si vous le voulez bien, un bon café avec un petit croissant et ensuite nous allons parler. Parler entre nous, parler entre vous, pour répondre à vos questions. Mais d'abord, prenons un café. Votre question, Julie, c'est comment expliquer ce succès sur Twitch ? Eh bien, c'est l'écoute. L'écoute des internautes, l'humilité, la bienveillance autour d'un café et d'un croissant. Ici, vous l'avez compris, on joue au Racing Club sympa, au FC Gentillesse.
Et puis c'est vrai qu'en venant chez vous, les politiques ont l'air sympas.
C'est vrai, je le dis avec humilité, bienveillance et bien sûr un café. Ah, excusez-moi, je pensais avoir coupé mon portable, pardon. Allô ? Allô ?
Oui, oui, bonjour monsieur Etienne. C'est Ségolène Royal. Je voulais vous dire que je suis très sensible à votre démarche pour reconnecter les personnalités politiques à la jeunesse. D'ailleurs, est-ce qu'il vous... Tiens, par hasard, tiens, ça me fait de façon fortuite. Est-ce qu'il vous resterait de la place dimanche prochain ? Parce que moi aussi, j'aimerais bien que tout le monde voit que je suis finalement quelqu'un de très sympa.
Merci beaucoup, Madame Royal. Mais dimanche prochain, je dois vous dire que je... Ah, pardonnez-moi, attendez. On m'appelle sur l'autre ligne, l'autre poste. Allô ?
Ah, salut Samuel ! C'est Nono Montebourg, dis-moi. Et bonjour à toi. Dis-moi, toi qui aimes échanger avec des gens le matin, si on faisait une interview, miel et présidentiel. Ah, c'est neuf comme concept. Toi qui aimes bien les nouveaux concepts, ton public va me voir sous un nouveau jour. T'as un créneau ?
Encore un appel, oh là.
Oui, monsieur Etienne, dites-moi, vous qui êtes si sympathique, est-ce que vous auriez pas une petite place pour une victime d'une erreur judiciaire inouïte et d'un procès politique d'une indignité t'es folle que même Christophe Fondat, il pourrait en parler pendant 3 heures chez Europe 1.
Ouais, bon. Écoutez, je ne sais pas si je vais continuer cette émission, ma chère Julie, parce que à la base, moi, je voulais créer une nouvelle émission et en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert une boutique de toilettage. Toilettage pour hommes politiques, peut-être. Allez, je vais y réfléchir, bien sûr, autour d'un café et d'un croissant.
Nicolas Canteloup, la revue de presque. Saluons évidemment Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange, les auteurs de la revue de presque que vous retrouvez sur Europe1.fr. Nicolas et Julie, merci beaucoup. 8h57 sur Europe 1, Philippe Vandel nous a rejoint, c'est l'heure de Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bah tiens, on va justement parler d'affaires aussi. Dans notre info média du jour, on va s'intéresser à une fraude de 18 millions d'euros qui a fait exploser le parti de la droite, l'affaire Big Malion qui est devenue l'affaire Sarkozy, l'affaire Copé, l'affaire Fillon ensuite, vous comprenez pourquoi et comment. Le doc de complément d'enquête qui revient ce soir sur 5 années de lutte est absolument magistral. On en parle avec les journalistes d'investigation du Monde qui ont enquêté sur le sujet, qui sont à la base de cette enquête, c'est Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Au sommaire également, un duo France Télé, le chef étoilé Maurice Sacco et l'animateur Raphaël Yem. Ils sont chacun à la présentation depuis janvier de leur propre émission, Cuisine Ouverte sur la 3 et Culture Box, l'émission sur la chaîne du même nom, c'est le canal 19. Et puis Julien Clerc, faut-il le présenter à Julie ? Il va nous présenter lui-même Terrien, son nouvel album, avec le cadeau, un live de son titre Mon Refuge.
Ah génial !
C'est un régal. Je serai là, Julie.
Je vais essayer d'être là. Je ne pouvais pas, j'avais rendez-vous.
C'est le titre
qui est
écrit par, Clara Luciani.
Exactement. Ouais. Exactement.
En live ce matin.
En live, exactement.
Bah, on zappe pas. On reste
il a dit que si Julie n'était pas là, il ne le faisait pas. Non, c'est pas vrai.
Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1. C'est un reggae ce morceau, j'aime beaucoup. Vous restez avec nous sur toute la journée sur Europe 1. Moi, je vais m'en aller, mais je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.